Et tu as une nouvelle de dernière heure pour nous, Raphaël.
C'est toute dernière heure, littéralement, Marie-Claude. Dans un discours à l'entreprise Whirlpool en Ohio, dans le cœur industriel américain, le président Trump vient de nous apprendre que son administration prévoyait imposer une nouvelle ronde de tarifs, donc de mesures punitives de 10 % sur l'aluminium canadien non traité.
Qu'est-ce qu'on a fait encore, là?
Ben, ce qu'on reproche, en fait, et ce qu'on exige du Canada, c'est la même chose dont toi et moi, on s'est parlé au tout début de l'été. C'est-à-dire que, du côté américain, on veut que le Canada limite ses exportations en matière d'aluminium. On veut limiter l'offre canadienne, surtout, évidemment, sur le marché américain, ce que le Canada refuse de faire. Je te dis qu'on s'en était parlé au tout début de l'été parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait été question par l'entremise, évidemment, du président Trump que pour le 1er juillet, on ait justement cette nouvelle ronde de tarifs américains sur l'aluminium. Ça n'avait jamais vu le jour, mais clairement, c'était pas mort. Donc, ça revient. Et là, ça devrait carrément entrer en vigueur incessamment. On n'a pas de date, on n'a pas d'heure, mais ça a l'air d'être assez clair qu'on s'en va vers ça. Une fois que c'est dit, Marc-Claude, deux grosses nuances. La première, je viens de la dire, c'est-à-dire que c'est pas nouveau dans la mesure où c'était déjà télégraphié,
ouais,
si on peut dire comme ça.
C'était
dans l'air. Deuxième nuance qui est très importante pour quiconque a suivi les relations commerciales entre les deux pays depuis le début de la présidence Trump, c'est qu'il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant sur l'acier. Je te parle des quatre dernières années parce qu'on le sait, à la base, ce qu'on avait eu dans l'espèce de conflit, dans la mesure où on peut appeler ça, là, entre le Canada et les États-Unis au niveau commercial, c'était parce qu'on avait eu à la fois des mesures qui touchaient l'acier et l'aluminium canadien. On avait d'ailleurs eu des tarifs quand même assez importants, 25 % sur l'acier. Là, c'est l'aluminium qui serait touché, 10 % rien de plus pour l'instant et très peu de détails additionnels. Donc, pour ceux qui en veulent, je dirais tout simplement, malheureusement, vous allez devoir prendre votre mal en patience parce qu'on a très, très peu d'informations. C'était lancé dans le discours. Et si je peux me permettre de t'ajouter ceci, c'est quand même assez spécial parce que avant même que le président fasse cette annonce-là, c'était vers la fin du discours, je voulais te parler de ce discours-là parce que j'allais te dire en fait que si Donald Trump se comportait toujours comme ça, je doute très fortement qu'il serait dans une aussi mauvaise position dans sa campagne de réélection. Le discours qu'il a prononcé cet après-midi, encore une fois, vraiment sur, d'abord et avant tout, les questions commerciales, ça touchait beaucoup plus que le Canada. En fait, ça touchait surtout la Chine, là. Il y a quelque chose qui a toujours été très, très, très vendeur auprès d'une clientèle électorale très importante aux États-Unis. C'était un bon discours. Je sais que l'annonce sur le Canada va provoquer évidemment une grosse levée de bouclier au Canada, mais d'un point de vue strictement électoral, strictement politique pour Donald Trump, c'était une bonne sortie, ça, cet après-midi.
Il a été bien conseillé.
Il a été bien conseillé et il a été discipliné. Et je te dirais que ça donne un contraste assez hallucinant avec une autre entrevue, quand je te dis que c'est pas le président qu'on a toujours, là, qui a donné et dont tu as eu vent toi-même là un petit peu plus tôt, dans laquelle il s'est fait poser une question sur un éventuel vaccin contre le coronavirus. Et Donald Trump va spéculer en fait en disant que selon lui, ça pourrait venir plus tôt, même beaucoup plus tôt que la fin de l'année, là, l'année en cours, l'année 2020. Et donc, l'intervieweur lui demande est-ce que ça pourrait être avant même le 3 novembre, donc évidemment la date de l'élection présidentielle. Donald Trump répond possiblement avant, mais sûrement directement autour de cette date-là.
C'est ça.
Tu dis là, pour ses propres fins électorales, c'est-tu vraiment brillant? T'sais, à moins que
c'est-à-dire pour ceux qui y croient de toute façon en Trump, là, qui l'aiment inconditionnellement, j'entends déjà les gens dire il y a premier vaccin le 3, on va avoir le vaccin à le. Pour voter pour lui, on va avoir le vaccin le 3 si on vote pas.
Qu'est-ce qui arrive, Marc-Claude, à ce monde-là le 3 matin si le vaccin n'est pas là?
Ben.
C'est ça. C'est pour ça que c'est risqué. T'sais, à chaque fois que j'entends Donald Trump parler comme ça sur un vaccin imminent, là, et soit dit en passant, il le fait, et je n'exagère pas, depuis février. En février, il promettait déjà que c'était imminent. Ça fait 6 mois. Là. C'est sa façon de gérer la crise. Et à chaque fois qu'il fait ça, sais-tu à quoi je pense, l'image que j'ai en tête? Je suis sûr que c'est une image dont tu te souviens. Ça ne date pas de la présidence Trump. En fait, ça date de la présidence Bush. Quand vers les tout débuts de la guerre en Irak, le président Bush avait tenu un grand discours dans lequel, derrière lui, il y avait une grosse bannière qui disait « Mission accomplie ». Ça, c'était au tout début de la guerre. Oui. Après ça, les États-Unis avaient été enlisés pendant des années. Autrement dit, quand tu fais une promesse de cette ampleur-là, comme président des États-Unis, t'es mieux de livrer la marchandise. Donc, peut-être que Donald Trump sait des choses qu'on ne sait pas. Mais aux dernières nouvelles, là, on n'a pas de vaccin. Il n'y a rien qui est imminent.
C'est ça. Puis il n'y a pas grand médecin qui, en ce moment, pense qu'on va avoir un vaccin si rapidement. Bon,
exact.
Écoute, il nous reste pas grand temps. Rapido presto, l'État de New York veut démanteler le National Rifle Association. J'ai juste un mot à dire. Bonne chance.
Bonne chance. Écoute, c'est quand même assez extraordinaire comme tentative. La fameuse NRA qui a tellement souvent été vantée pour ses prouesses organisationnelles. Évidemment, le grand groupe de défense des armes à feu, exactement, du deuxième amendement aux États-Unis. La vérité, quand même, il faut aussi le faire dans la nuance, c'est que c'est une organisation qui, depuis quelques années, a beaucoup de difficultés, notamment au niveau financier. Et c'est en fait cet angle-là que prend la procureure générale de l'État de New York, l'équivalent, si on veut, de la ministre de la Justice de l'État de New York, donc qui lance aujourd'hui une poursuite pour faire dissoudre la NRA parce qu'elle l'accuse d'inconduite financière par laquelle les dirigeants auraient utilisé les dons des membres, parce qu'il faut le rappeler, c'est un groupe à but non lucratif en principe, là, pour s'enrichir personnellement. Donc, un petit peu comme tu le dis, Marc-Claude, bonne chance.
En effet.
C'est quand même assez intéressant comme histoire.
Ça va durer un petit bout de temps. Maintenant, parlant d'armes à feu, écoute, on a une minute et demie, là. Trois adolescents, quand on dit adolescents, on dit 15-16 ans, qui ont essayé qui essayaient d'entrer sur le terrain en Floride de Donald Trump avec des AK-47.
Tu sais, je pense qu'on a tous eu nos excès de jeunesse, là. Mais toi, Marc-Claude, je sais pas si à 15 ans, tu as déjà essayé de pénétrer dans la demeure du président des États-Unis avec un AK-47.
Mais d'abord, j'ai jamais tenu un AK-47 dans mes mains, ça, je peux te dire ça. Je peux mettre ma main sur la Bible, si tu veux, là, mais
Autrement dit, t'étais une ado facile, c'est ce que ça veut dire.
Non, j'ai pas été une ado facile, mais pas dans ce sens-là.
Quand on se compare, là, je vais te dire qu'il y en a qui l'apprennent pas mal dur aujourd'hui en apprenant donc ça. Trois ados, tu dis 15-16 ans, trois ados de 15 ans en Floride ont donc été arrêtés après avoir été vus sur la propriété de Mar-a-Lago, la deuxième résidence, là, si on veut, de Donald Trump en Floride, transportaient un sac à dos dans lequel il y avait un AK-47 chargé. Donc, ils ont été arrêtés, ils vont comparaître. Le punch de l'histoire, pour moi, il y en a deux, Marc-Claude. Le premier, c'est que comment ils ont réussi à rentrer en sautant par-dessus le mur de sécurité qu'avait fait construire Donald Trump. Et le deuxième punch...
Excusez.
Non, mais c'est un petit peu comique, là.
Oui.
C'est que leur ligne de défense concernant le port d'un AK-47, c'était pas à eux. Ils l'ont juste trouvé.
Oh, OK.
Une vraie défense d'ado.
Puis apparemment qu'ils se sauvaient de la police, qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient chez Trump. Enfin, ça fait beaucoup de mystères qu'on essaiera d'élucider plus tard. Merci beaucoup, Raphaël.
Bye-bye.
On s'arrête pour les nouvelles de retour tout de suite après.